Il est 6h30 à N'Djamena et Niamey, une heure de moins à Conakry en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Grégoire Morelli, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Le Tchad tout d'abord, où de premières accusations de fraude ont été formulées contre le parti du président Mahamat Déby deux jours après le triple scrutin qu'a connu le pays. Les détails dès le début de ce journal. À suivre également le Gabon, Albert Ondo-Ossa, qui se considère comme le vainqueur de l'élection présidentielle de 2023, affirme ne pas être fermé au compromis tout en se refusant à la compromission, vous l'entendrez. Puis en Guinée, l'opposant Aliou Ba, poursuivi pour offense au chef de l'État, présenté à un juge hier, le président du Modèle a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile. Et au Niger, lui, aurait dû être présenté hier à la justice, mais son audience a été reportée. En attendant, Moussa Tchangari est de nouveau en garde à vue. Parmi les charges retenues contre lui, celle d'apologie du terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Et concernant le Niger, justement, le Bénin voisin a répondu aux accusations formulées par le chef de la junte, Abdourahmane Tchiani. Ce dernier a affirmé que le Bénin était impliqué dans des actions de déstabilisation de son pays, chose que Porto Novo dément. Au Tchad, les résultats définitifs du triple scrutin pour les législatives, les municipales et les locales devraient être connus le 15 janvier prochain. Mais déjà, les partis d'opposition, je vous le disais, ont formulé des accusations de fraude hier à l'encontre du MPS, le parti de l'actuel président Mahamat Déby. On fait le point à N'Djamena avec la correspondance de Victor Moria.
Ce sont des faits, disent-ils, qui leur sont remontés du terrain. Le RNDT Le Réveil de l'ancien Premier ministre Albert Pahemi Padaké accuse l'actuel parti au pouvoir, le MPS, d'avoir réalisé de nombreuses fraudes le jour du vote. Clément Sianka, porte-parole du RNDT.
Intimidation, fraude, emprisonnement, bureau de vote sans PV. Un peu partout dans le Tchad, on a ce mécanisme qui est mis en place par le MPS pour se soustraire de la volonté du peuple, du vote du peuple, parce qu'ils savent que si ils s'exposent de façon légale, de façon transparente au peuple, le peuple va les sanctionner.
Au MPS, on récuse l'organisation des fraudes et on promet la transparence. Aziz Mahamat Saleh, ministre des Infrastructures et du Désenclavement, est le rapporteur national de la campagne du parti.
Il peut y avoir des situations isolées dans lesquelles il y a eu peut-être du zèle ou il y a eu peut-être des candidats qui auraient mal agi. Ça, c'est partout, pas seulement chez nous. S'il y a une situation où il y a un risque de fraude, le MPS appelle à ce que ce soit annulé dans ces zones-là pour que ce soit repris conformément à la loi.
Lorsque les résultats définitifs seront publiés par l'ANJ, le RNDT annonce déjà vouloir saisir la Cour constitutionnelle et la Cour suprême pour demander des dizaines d'annulations. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
Autre prise de parole très critique à l'encontre des autorités tchadiennes après la tenue de ce vote, celle des transformateurs de succès Masra. Dans un communiqué, le parti qualifie d'échec retentissant le processus électoral en raison du boycott massif auquel ils ont appelé et dénonce, je cite, des résultats préfabriqués qui ont été imposés aux tchadiens. Au Gabon, Albert Ondo-Ossa est-il prêt à occuper des fonctions officielles sous le régime militaire dirigé par le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema ? Plusieurs Gabonais se posent cette question après la rencontre entre les deux hommes. C'était le 5 décembre dernier. Albert Ondo-Ossa, qui se considère comme le vainqueur de l'élection présidentielle de 2023, dont les résultats ont été annulés après le coup d'État qui a chassé Ali Bongo du pouvoir. Albert Ondo-Ossa a affirmé hier qu'il n'entrerait jamais dans les rangs, même s'il reste ouvert aux négociations. Il l'a déclaré lors d'une conférence de presse. Écoutez-le au micro de notre correspondant Yves-Laurent Gomain.
Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a deux forces en présence. Oligui Nguema qui représente la force militaire. Albert Ondo-Ossa qui représente la légitimité populaire. Le président élu et le président de la transition putschiste. Voilà les deux forces. Oligui Nguema compte sur son armée. C'est ce qu'il a de mieux. Albert Ondo-Ossa compte sur le peuple gabonais à qui il a présenté un projet, un programme auquel la population a adhéré. Alors, je ne fais pas dans la compromission. Je peux faire des concessions, des compromis. Lorsque le chef de l'État, le président de la transition m'appelle, je ne vois pas pourquoi je dirais non. Et je lui ai répété que si vous m'appellerez 100 fois, je viendrai.
Albert Ondo-Ossa lors d'une conférence de presse au Gabon. Il est 5h34 à Conakry, la Guinée, où ce mardi 31 décembre devait marquer normalement la fin de la transition, comme le général Mamadi Doumbouya et la junte du CNRD s'y étaient engagés avec la CDAO finalement. Il y a 3 semaines, le gouvernement confirmait que la date butoir ne serait pas tenue, évoquant une deuxième phase dite de refondation de l'État. La raison avancée par les autorités notamment sont que sur les 10 étapes du chronogramme de cette transition, seul seule l'opération de recensement, la RAVEC, et l'élaboration de la nouvelle constitution ont débuté. La Guinée est toujours où l'opposant Aliou Ba a été présenté à un juge hier. Le président du modèle a été placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile. Ce dernier est poursuivi pour offense au chef de l'État, mais il rejette toutes les accusations en son encontre. En sortant du tribunal, il a déclaré « Point levé, on va se battre, la vérité est de notre côté » avant de passer donc sa première nuit en prison. Les précisions avec Walid Diallo.
Régulièrement dans les médias et sur ses réseaux sociaux, Aliou Ba critique les autorités guinéennes. Il pointe du doigt leur responsabilité dans le drame de Nzérékoré et la lenteur du processus de transition. Une prise de position médiatique qui serait à l'origine du procès, selon son avocat, Almami Samori Traoré.
En réalité, c'est un procès qui est purement politique. Oui. L'objectif, en réalité, c'est de le faire taire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le seul acteur politique qui ose prendre la parole et dire exactement ce que pensent tous les citoyens épris de paix et de justice et qui sont éventuellement à la quête de la liberté pour lesquels effectivement il est en train de se battre.
Aliou Ba avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Sierra Leone. Son parti a dénoncé des conditions de détention pénibles et appelé au respect de ses droits. Dans un communiqué, il dénonce un abus flagrant de pouvoir et une nouvelle décision visant à réduire au silence les voix dissidentes.
Si on doit interdire aux acteurs politiques de critiquer l'action gouvernementale et de critiquer la gestion de la transition pour laquelle des engagements ont été pris, Aliou Ba n'a fait que rappeler aux autorités qu'elles ont pris des engagements et qu'elles sont tenues de les respecter.
Aliou Ba refera face à la justice très prochainement. Jugé en flagrant délit, son avocat espère repasser devant les tribunaux dès aujourd'hui.
Walid Diallo. Dans le volet judiciaire, encore au Niger cette fois, Moussa Tchangari est toujours en garde à vue. Selon son association, le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen devait être présenté à un juge hier lundi, mais cela a finalement été reporté. Moussa Tchangari, rappelons-le, a été interpellé à son domicile à Niamey le 3 décembre, alors qu'il rentrait d'un déplacement en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Il a été transféré 48 heures plus tard au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Parmi les charges retenues contre lui, celle d'apologie du terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Son arrestation, elle, a provoqué une vague d'émotion dans la société civile ouest-africaine. Aliou Ntine, fondateur du think tank AfrikaJom Center, fait partie des signataires d'une tribune en soutien à cette figure de la société civile. Et comme d'autres voix du Sénégal, du Niger, de Mauritanie ou encore de France, il appelle à sa libération.
Moussa Tchangari est un des leaders les plus en vue de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Un homme extrêmement engagé, qui a une expertise avérée. Vraiment, son arrestation, pour nous, c'est quelque chose de scandaleux. Moussa Tchangari est un homme libre, est un intellectuel critique, qui a toujours été très critique vis-à-vis de tous les régimes passés. Également critique vis-à-vis de la politique française en Afrique. Donc, sa détention est totalement arbitraire pour nous. Donc nous recommandons au gouvernement nigérien de le libérer immédiatement et sans condition et de le laisser continuer à travailler pour la société civile, pour la promotion justement de la bonne gouvernance et également pour vraiment dénoncer la corruption partout où ça existe sur l'Afrique de l'Ouest.
Aliou Ntine, fondateur du think tank AfrikaJom Center et signataire également de cette tribune en soutien à Moussa Tchangari. Le Niger, toujours avec où il en est question dans ce courrier des autorités béninoises. Nous rejetons catégoriquement ces accusations, a écrit le ministre des Affaires étrangères dans un courrier adressé à son homologue nigérien. Un courrier dont RFI s'est procuré une copie. Ainsi, Porto Novo répond aux accusations du général Abdourahmane Tiani à la télévision publique nigérienne le 25 décembre dernier. Le chef de la junte nigérienne qui affirmait que le Bénin était impliqué dans des actions de déstabilisation de son pays, évoquant des achats de matériel distribués à des terroristes. Cheikhoun Bakary a convoqué ce lundi 30 décembre la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger au Bénin. À Cotonou, les détails avec Jean-Luc Aplogan.
Ce n'est pas la première fois que les autorités béninoises protestent contre les accusations de la junte nigérienne. En juin dernier, Patrice Talon en personne l'avait fait quand Niamey l'a accusé de masser des troupes étrangères à ses frontières pour attaquer le Niger. Cette fois, c'est son ministre des Affaires étrangères qui monte au créneau. Cheikhoun Bakary a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger à Cotonou pour protester officiellement. Puis il a écrit à son homologue nigérien pour lui dire que les accusations de son patron sont fausses, injustifiées et dénuées dénuée de tout fondement objectif. Le ministre fait savoir que la partie béninoise a même proposé par écrit une rencontre des chefs d'état-major des deux pays pour lever les doutes et les suspicions, une rencontre qu'on attend toujours. C'est la surprise avec ce nouvel épisode. On croyait la décrispation en marche avec la levée de l'interdiction du chargement de brut nigérien à partir du Bénin. Nous sommes au 8e navire citerne aujourd'hui. La nomination d'ambassadeur par les deux pays. On apprend que le ministre des Affaires étrangères du Bénin devait se rendre à Niamey le 20 décembre dernier. Niamey n'a pas encore réagi et on s'interroge ici sur la suite du processus de normalisation des relations en cours. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Enfin, l'Afrique du Sud pleure l'une de ses plus grandes chorégraphes, Dada Mazilo, et s'est éteinte à l'âge de 39 ans. Elle qui avait fait souffler un vent de fraîcheur et de renouveau sur sa discipline en y introduisant les rythmes de l'Afrique. Elle a revisité les plus grands classiques comme le Lac des Cygnes, mais aussi Roméo et Juliette ou encore Carmen. Née à Soweto, Dada Mazilo avait inauguré une plaque à son nom devant un théâtre de la ville début décembre. Valentin Hugues s'y est rendu.
Dada Mazilo était intimement liée à ce théâtre pour deux raisons. Parce que c'est un lieu où la culture est reine.
Nous sommes ici au théâtre de Soweto. C'est un lieu emblématique en termes d'art.
Et parce que la chorégraphe est née ici, à Soweto, Kosin Desi est responsable marketing du théâtre.
Il faut que vous parliez à notre directeur artistique. Je vais l'appeler. Salut James, ça va ?
Avec Dada, on discutait souvent à l'arrière du théâtre et ça m'a juste brisé le cœur de me dire « Mince, elle était si jeune !» Vous vous réveillez un matin et vous vous dites « Elle n'avait que 39 ans !» Et j'aimerais rajouter quelque chose sur Dada, dont on ne parle jamais. Elle a donné du travail à tellement de danseurs pour leur permettre d'avoir une vie décente dans notre pays. Parce qu'elle avait compris que quand on atteint le sommet, il faut regarder en bas, regarder ceux qu'on laisse derrière nous et les aider à s'en sortir.
Pour remercier Dada Mazilo d'avoir fait rayonner l'Afrique du Sud dans le monde entier, une plaque à son nom avait été installée devant le théâtre seulement quelques semaines avant sa mort.
C'est une magnifique étoile en or, jaune, sur une plaque de marbre. Et Dada a vu son nom inscrit ici avec toute sa famille.
Une plaque qui désormais a un sens bien particulier. Elle permet à Dada Mazilo d'être à Soweto pour toujours. Valentin Hugues, de retour de Soweto, RFI.
Et il est 5h42 en temps universel, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'actualité continue sur RFI.
Afrique Matin sur RFI, Grégoire Morelli.
Et dans la suite d'Afrique Matin, justement, on reviendra sur la fin de la transition en Guinée, une transition qui aurait dû prendre fin aujourd'hui, mais la population devra encore attendre puisque les autorités ont annoncé son report. On parlera aussi avec notre invité Aleni Sall. Il est chargé de la communication pour l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. Puis, quand le prix du chocolat explose, Marie-Pierre Offland nous expliquera comment, pour faire face à cette hausse des